Donc, la parole de Dieu maintenant, si vous le voulez bien, dans le livre du prophète Ésaïe, je vais vous proposer une première lecture. Le prophète Ésaïe, le chapitre 59, on va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Ésaïe 59, le verset 9, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu, nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Amen. On va arrêter ici cette lecture. On aurait pu vraiment, on aurait pu lire la totalité de ce chapitre. Et il y a là, dans ce chapitre 59 du livre d'Ésaïe, la description de l'état désespéré et perdu dans lequel se trouve une société. Et c'est ici le reflet de la société d'aujourd'hui. Une description poignante, très forte, très intense. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards qui sont là. Et il y a un verbe qui revient à deux reprises. Ils sont dans une attente. Nous attendons. Intensément, désespérément, nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La description d'une humanité plongée dans l'obscurité. Vous savez que dimanche dernier, nous avons commencé à parler concernant la lumière. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. La première création que par sa parole il a créé, c'est la lumière, alléluia, le quatrième jour, on va le voir tout à l'heure, il va mettre des luminaires dans le ciel, et nous avons cité ce psaume de David, l'Éternel est ma lumière, parce qu'à un moment donné, le Dieu lumière doit devenir ma lumière et ta lumière, alléluia. Et nous avons vu de quelle manière, eh bien, Dieu veut nous délivrer de la puissance des ténèbres et nous donner de marcher à sa lumière. Et je citais l'invitation du prophète Ésaïe, « Venez et marchons à la lumière de l'Éternel ». Dans sur la surface de la terre, il y a un peuple qui rayonne, qui est heureux, c'est le peuple de ceux qui marchent avec Jésus. L'Église de Jésus se distingue, se démarque, alléluia. Et donc, je disais quelques explications concernant la marche à la lumière de Dieu, c'est la marche à la lumière de la parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, et ainsi de suite. Et je vous ai annoncé qu'il y aurait un deuxième volet à ces prédications. Je vous ai parlé de la lumière de la condamnation, elle nous éblouit parce qu'on marche contre ces rayons, alors la lumière de Christ nous éblouit, elle nous dérange, parce que l'évangile, ça dérange, mais Dieu ne nous dérange pas pour nous contrarier, mais pour nous sauver. Je bénis Dieu encore aujourd'hui, 53 ans plus tard, pour le jour où Dieu m'a dérangé. Il m'a ébloui, il m'a impacté en me disant que je vivais dans le péché et que j'étais perdu, mais qu'il m'aimait et qu'il voulait me sauver. Et ébloui par cette lumière qui nous a impacté, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous nous sommes convertis. Se convertir, c'est faire demi-tour. Et voici que la lumière qui nous agressait, maintenant, nous avons changé de direction, elle nous éclaire. Elle est utile. Elle est bénéfique. Alléluia. On ne tâtonne plus. Elle nous éclaire et nous marchons. C'est la lumière de la communion. Un, la lumière de la condamnation. Je me convertis. Elle devient la lumière de la communion. Et là, je marche en communion avec le Seigneur. Il m'éclaire le chemin. Il me conduit dans ses plans parfaits. Et c'est le bonheur, la paix, la sécurité, la divine protection au quotidien et dans tous mes besoins, que le Seigneur soit béni. Maintenant, cette lumière de communion, je ne veux pas l'enfermer dans ma vie égocentrique, elle doit devenir la lumière de la propagation. Amen. Dieu veut que sa lumière atteigne tous les secteurs, toutes les zones, tous les cœurs, toutes les maisons, toutes les vies où il y a les ténèbres. Car, rappelez-vous, je vous citais ce défi merveilleux que Dieu relève, les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Amen. Et la volonté de Dieu, on va en reparler tout à l'heure, c'est inlassablement de faire propager sa lumière le plus loin possible, dans les endroits les moins accessibles, dans les cœurs même les plus fermés. Il veut faire briller sa lumière. Oui, parce que sa lumière, elle est un élément indispensable. Je faisais mention de ce verbe que l'on retrouve à deux reprises dans ce texte d'Ésaïe, « Nous attendons la lumière ». Aujourd'hui, en 2024, dans notre pays de France, et malheureusement ailleurs aussi, mais en France, ils sont si nombreux à attendre quelque chose. Quelque chose qui ne vient pas. À attendre un événement, un déclic, un changement, un déblocage, quelque chose qui va faire que l'épaisse ténèbre qui les a envahis va reculer, qu'un espoir va poindre à l'horizon, que quelque chose de salutaire, de bénéfique, de positif va se manifester. Nos quartiers sont remplis, nos immeubles sont pleins d'hommes, de femmes qui sont comme assis dans l'obscurité, dans les ténèbres. La dépression, la culpabilité, les remords. Tant et tant de personnes se disent, si je pouvais recommencer, il y a bien des erreurs que je ne commettrais pas. Ah, si seulement, dans cette circonstance, j'avais eu un peu plus de bon sens, j'aurais évité cette erreur aux conséquences dramatiques. Tant de personnes sont assise dans les ténèbres. Vous avez entendu cette description poignante, bouleversante. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous chancelons à midi. À midi, on devrait être plein de force. Eh bien, c'est l'anémie totale. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts, oui, parce que l'abondance économique, ça n'est pas la garantie du bonheur intérieur. En pleine abondance, nous ressemblons à des zombies. Ça, c'est la version de Tcherkéchian. Nous ressemblons à des morts vides, aux ressorts cassés, à l'âme désespérée, sans courage d'assumer le minimum du quotidien. Et puis, écoutez ceci, nous grondons tous comme des ours, Nous gémissons comme des colombes. Il y a deux catégories de personnes face à cette détresse. Il y a les personnes qui grondent comme des ours. Ça, c'est la révolte, les revendications, les poings fermés qu'on lève bien haut. Ce sont les slogans révolutionnaires, etc. Ça, c'est les ours qui grondent. C'est impressionnant. Et puis, il y a d'autres personnes qui, à l'extrême inverse, eh bien, gémissent comme des colombes. Il ne leur reste plus que les gémissements de la colombe pour exprimer leur désarroi et leur détresse. Il y a tellement, tellement de choses qui expriment des réalités poignantes dans ce texte. Mais voyez-vous, la bonne nouvelle de l'Évangile nous révèle un Dieu sauveur. Un jour, Dieu dira à Moïse, ce berger de 80 ans, en plein désert, Dieu dira à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris que lui font pousser les Égyptiens. » Et nous avons rencontré le Dieu qui voit et le Dieu qui entend. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, « Dieu voit ton état et Dieu entend les expressions les plus profondes de ton âme. Dieu voit et Dieu entend. Et ce que Dieu voit et ce que Dieu entend bouleverse ses entrailles de miséricorde. Ma Bible me révèle un Dieu qui se laisse toucher par la souffrance, par la misère, par la détresse. Le psaume 34 me dit, quand un malheureux crie, il crie, sans destinataire particulier, il crie parce que c'est un trop-plein de souffrance. Quand un malheureux crie, il y en a un qui entend. L'Éternel l'entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Il y a peut-être un cri de douleur au fond de ton âme, mais Dieu l'entend. Même si ce cri n'est pas audible pour ton environnement, même s'il n'est que intérieur, Dieu entend les cris silencieux, les cris du cœur, les cris de douleur, les cris qui appellent le secours. Dieu voit et Dieu entend. Et parce que Dieu voit que la situation est grave et qu'il entend que la douleur est intense près de l'insupportable, alors Dieu envoie sa lumière. Alléluia. Dieu envoie sa lumière. Et permettez que je fasse un rapprochement, une projection spirituelle entre le récit de la Genèse que nous allons lire maintenant et quelques applications spirituelles. Dans le premier chapitre de la Genèse, il y a ces explications qui nous sont rapportées. C'est maintenant le quatrième jour de la création et la Bible dit au verset 14, Genèse 1, 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour, écoutez bien, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le quatrième jour, que le Seigneur soit béni. Dans sa volonté, frères et sœurs, chers amis, dans sa volonté d'envoyer la lumière pour éclairer et sauver le peuple en ténébré, alors Dieu va procéder au quatrième jour à une œuvre créatrice admirable, il va placer des luminaires et des étoiles pour éclairer la terre, il est dit, pour qu'ils servent de signes, pour qu'ils marquent les périodes, les années et les jours, et pour éclairer la terre. Ça, c'est la création. Alors, le grand luminaire, c'est le soleil. Le petit luminaire qui préside à la nuit, c'est la lune. Et puis, il y a les étoiles. Ce qui va suivre dans ma prédication va se caler sur ces trois éléments forts. Le soleil, la lune et les étoiles. Et ces trois éléments ont un seul but, éclairer la terre. Alléluia. Faire triompher la lumière sur l'emprise des ténèbres. Et je prie pour que ce matin, pendant ce culte, la lumière de Jésus triomphe dans la vie de quelqu'un. Que la vie reprenne ses droits. Que la foi te soit suscitée. Que le courage te soit relevé, restauré. Alléluia. Et que tu repartes différente, la vie changée, l'horizon sombre illuminé de sa lumière. Permettez juste cette triple projection spirituelle. Vous le savez, le Messie a été annoncé de diverses manières, et notamment le prophète Malachi va dire qu'il est le soleil de la justice. Se lèvera le soleil de justice et la guérison se trouvera sous ses ailes. Et ce soleil de justice nous parle de Jésus. De Jésus. Lorsque ce vieillard pieux, fidèle, sur lequel résidait le Saint-Esprit et qui s'appelait Siméon, a vu arriver Joseph et Marie avec leur enfant pour le présenter à l'Éternel, Siméon va prendre ce bébé dans ses bras et il va dire: mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Ça n'était qu'un bébé, mais dans cette incarnation à vue humaine fragile, il y avait l'accomplissement du plan salutaire de Dieu pour le monde entier. Et pour moi qui vous prêche, et pour toi qui écoutes, dans ce bébé né miraculeusement par l'intervention de l'Esprit de Dieu en Marie, elle a conçu cet enfant qui à la fois est appelé fils de l'homme et fils de Dieu, et dont Siméon dira qu'il est la lumière pour éclairer les nations. On a chanté tout à l'heure, Christ est la lumière. Alléluia. Et lui-même, le Seigneur Jésus, devenu adulte et ayant entamé son ministère, dira: je suis la lumière du monde. Gloire à Dieu. L'événement summum de l'histoire de l'humanité, c'est la venue de Jésus. Le soleil a été le grand luminaire, le soleil de justice, la venue de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4 et au verset 12, nous lisons ceci, un texte remarquable. Matthieu 4, 12, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, située près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Oui, sous ses ailes, il y a la guérison. Amen, hein? Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Que le Seigneur soit béni. Ce texte intervient juste après les jours de tentation que Jésus, seul dans le désert, a dû affronter. Et il a repoussé victorieusement toutes les subtilités du tentateur. Il est écrit, et le diable l'a laissé. Et là, Jésus commence, sur un plan public, son ministère, son œuvre. Et le commencement de son œuvre est marqué par cette parole prophétique que nous avons lue. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est le soleil de justice. Alléluia. Et Jésus entre d'une manière ouverte et publique dans l'exercice de son ministère. Le Sauveur est entré dans l'histoire de l'humanité. Le soleil se lève. Alléluia. Et il y a un enchaînement d'événements que nous rapporte ce chapitre et les chapitres suivants, où on voit la lumière venir dans les ténèbres. D'abord, par l'enseignement, Jésus enseigne. Il va dans les synagogues où le monde religieux était dans l'obscurité du judaïsme traditionnel. Ils étaient là avec plein de rituels vides de leur sens, et il apporte la vérité. La lumière éclaire, elle éblouit, certes, mais elle sauve ceux qui ont un cœur bien disposé. Jésus avance, il va au bord de la mer Galilée et il appelle, c'est la lumière, il appelle. Pierre, André, suivez-moi. Jean, Jacques, suivez-moi. Et la lumière éclaire ces hommes. Ils comprennent que, leur existence peut prendre un sens transcendant, gloire à Dieu. Et ils répondent et ils suivent Jésus. Et Jésus continue, il visite et il arrive dans une contrée, dans toute la Galilée. Il voit des foules s'approcher avec leur infirmité, leurs possessions, leurs tourments, leurs angoisses. Il guérit les malades, il chasse les démons, la lumière avance, les ténèbres reculent. Et ça fait 2000 ans, frères et sœurs, chaque fois où l'évangile est prêché, ça fait 2000 ans que la lumière chasse les ténèbres. Que la lumière vient et sauve, vient guérir, chasse les blocages psychologiques qui tiennent asservis tant de personnes, que la lumière de Christ vient instaurer le règne de Dieu dans la vie d'adolescents, de jeunes, d'enfants, de vieillards. Un jour, j'assistais à un service de baptême, c'était un couple très âgé, ils avaient tous les deux le même âge, 91 ans. Et je les entends encore. Et c'est à pleurer de combien c'est touchant. Lui comme elle, au micro, dans le baptistère, ont rendu ce témoignage. Voilà, nous venons de rencontrer Jésus il n'y a pas longtemps, à 91 ans. Le seul regret que nous avons, vous devinez, c'est de ne pas l'avoir rencontré plus tôt. Eh oui, la lumière est venue. La lumière vient. La volonté de Dieu, c'est que la lumière vienne dans ta vie ce matin. Gloire à Dieu. Ne te rétracte pas. Ne sois pas sur une défensive, une appréhension. La lumière est bonne. La Bible nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Alléluia. La lumière va te rassurer, te guérir, te réconforter et donner à ton existence insipide une dimension éternelle parce que nous ne sommes pas créés pour vivre simplement quelques décennies sur terre et disparaître comme ça. Mais Dieu nous a créés pour partager avec nous son éternité. Dieu te veut parmi ses rachetés. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et Jésus est allé, lui, le soleil de justice. Et pendant plus de 3 années de ministère, sa lumière est entrée dans des maisons où il y avait cette pauvre femme brûlée de fièvre, la belle-mère de Pierre, il l'a guérie. Il entre dans la chambre d'une fillette de 12 ans qui vient de mourir, la fille de Jaïrus. Petite fille, je te le dis, lève-toi. Et la jeune fille est ressuscitée. Alléluia. Et il ordonne qu'on lui serve à manger. Puis en route, il croise cette pauvre veuve du village de Naïn. Elle était veuve, mais elle avait un fils unique. Elle venait de le perdre. Elle était en train de le conduire au cimetière. Mais Jésus arrive. Alléluia. Il fait stopper tout cela. Et il pose sa main sur le cercueil et dit, « Jeune homme, lève-toi !» Et le mort ressuscite et il le rend vivant à sa maman. Alléluia, c'est la lumière, gloire à Dieu. Il arrive à Sichar, il est fatigué du voyage, il est assis au bord du puits et vient une femme d'une réputation pesante. Elle était connue dans tout le village pour une vie dissolue, déséquilibrée, vraiment chaotique. Et Jésus va entamer un dialogue avec cette femme et de fil en aiguille, il va faire briller sa lumière. Dans la femme, cette pécheresse, elle va découvrir le Sauveur, elle va comprendre, la foi va naître, sa vie va changer, elle balance sa jarre vide, elle court annoncer la bonne nouvelle, j'ai rencontré le Sauveur, alléluia, la lumière de Jésus. Quand Jésus allait de lieu en lieu, c'est le soleil de justice qui visitait les ténèbres. Et le Seigneur Jésus veut aussi t'éclairer de sa lumière. Et puis Jésus est monté au ciel. Jésus est monté au ciel. Quelqu'un pourrait dire, eh ben c'est la triste fin d'un beau film. Eh ben non, 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 non. Oui, le soleil disparaît. Il y a un moment, le soleil disparaît. Mais il y a la lune, qui par elle-même ne peut pas produire de lumière. Mais l'utilité de la lune, c'est de recevoir la lumière du soleil et de réfléchir cette lumière sur la terre. Et ce que le Créateur, dans sa sagesse, a établi, nous parle au plan spirituel. Avant de monter au ciel, Jésus a confié à son Église la mission de réfléchir sa lumière pour éclairer ses contemporains. Pourquoi pensez-vous que Dieu tarde à reprendre son Église et à l'introduire dans le ciel? Pourquoi pensez-vous cela? Pour la seule et unique raison que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés parviennent à la connaissance de la vérité. Par quel moyen ? Par l'Église. Et personne ne dit Amen. Alors qu'on devrait tous le crier. Quelle confiance, quel honneur le Seigneur nous confie, nous, son peuple, à notre tour de devenir la lumière du monde. Sauf que ce n'est pas notre lumière, c'est la lumière de Jésus qui nous éclaire, nous, et qui rebondit pour éclairer notre société. Que Dieu fasse de l'Église une Église en pleine disposition de réfléchir la lumière de Jésus au sein de sa génération. En parlant d'Église et de sa mission, il y a bien des textes que j'aurais pu choisir, mais il est une parabole que je voudrais que nous lisions ensemble dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Et dès le verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ! Allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Amen. » La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Concernant son Église, la volonté de Dieu, c'est que son Église se maintienne dans un état optimal de foi et de vie spirituelle. Dieu est en souci de l'état de son Église, comme un parent responsable est en souci de la santé de son enfant. Hein ? Il y a des parents parmi nous. Nous avons eu aussi notre époque d'avoir des enfants en bas âge. Et je vous assure, les mamans sont plus développées dans cette faculté. Des symptômes imperceptibles ne passeront pas inaperçus au regard ou à l'oreille de la maman. Elle sait, elle sent, elle discerne que chez son petit, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal, voilà. Hein. C'est comme ça, c'est inné. Parce que c'est l'amour maternel. C'est l'amour maternel. Combien plus merveilleux est l'amour paternel divin. Dieu ne va pas attendre que tu en arrives au bout de ta dégénérescence pour commencer à intervenir. Mais dès les premiers signes, dès les premiers symptômes, peut-être imperceptibles à ton entourage, il est attentif au premier élément de fléchissement, d'affaiblissement de ta foi, et il veut te porter secours. Alléluia. Il veut que nous fassions tous partie des 5 vierges sages. Amen. Leur sagesse, elle s'est exprimée par le fait qu'elles ont été prévoyantes, conscientes, et qu'elles n'ont pas sous-estimé la nécessité d'avoir à leur portée une réserve d'huile. C'est le trait de sagesse que Jésus fait ressortir. Et la folie des cinq autres a été, dans le sens bien sûr inverse, elles ont pensé que l'existant leur suffirait. L'acquis est suffisant. Moi, je vais vous dire une chose. Mon acquis de ce jour ne m'est pas suffisant. J'ai besoin de veiller à avoir à ma disposition une abondance de réserves d'huile, symbole du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nos églises sont issues non pas d'un homme, mais du ministère du Saint-Esprit. Dans les années 30, l'histoire objectivement le démontre, l'Esprit de Dieu a visité la France, qui se trouvait dans un état spirituel et moral très très bas. On pourrait presque qualifier cela d'un état de ruine. Mais la Bible nous dit que Dieu prend le défi de reconstruire sur des ruines. Amen. Oh, c'est ce Dieu-là que nous connaissons. Amen. Et Dieu a inauguré un temps merveilleux, de visitation par le Saint-Esprit sur toute la population française. En commençant au Havre, la Normandie, et puis en se propageant très rapidement, on pourrait presque dire que la lumière du salut en Christ a brillé en France. Et on nous a rapporté des témoignages absolument sidérants, bouleversants, d'infirmes qui étaient sur leur fauteuil roulant et qu'on poussait pour les amener à une soirée d'évangélisation, et à la fin de la soirée, c'est eux qui portaient le fauteuil. Et pas un, pas deux, pas quelques exceptions sporadiques, mais comme un courant de visitation, le Saint-Esprit a visité la population française d'une manière merveilleuse, gloire à Dieu. Mais ça n'est tout simplement que la confirmation d'une clé spirituelle que Dieu depuis longtemps nous donne. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et un de mes points de vigilance majeurs, c'est que je sois sans cesse réalimenté dans la vie du Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas comment vous gérez l'autonomie de votre véhicule, vous, mais moi j'ai une fâcheuse habitude qui m'a coûté quelques déboires, c'est que j'attends que la jauge soit dans la réserve pour faire le plein. Et ça, ma femme, elle ne peut pas le supporter, mais comme elle est patiente, ça va quand même. Et j'attends, et je veux battre mon record. Je veux faire 5 km de plus. Et ça m'a quand même coûté quelques pannes sèches, quelques factures douloureuses de dépanneur. Hein. Alors, sur le plan spirituel, mon frère, ma sœur, n'attends pas d'être dans la réserve. Tu vois, il y a des véhicules, et alors l'aiguille descend, après il y a un petit point lumineux qui s'allume, et puis à un moment, le petit point, il clignote comme ça. Et nous, on roule, insensible aux avertissements. Attention, panne sèche imminente, mais nous, on roule, on veut battre notre record. Hein. Combien de chrétiens sont en panne sèche? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un parmi nous qui serait dans cette situation, en panne sèche? Tu n'as plus le carburant spirituelle pour avancer. Ta progression est stoppée. Pourquoi ? Il t'a manqué un trait de sagesse. C'est que toi et moi, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va déverser en nous, instruments faibles, l'abondance, la puissance, les ressources et les capacités de notre Dieu. Et nous aurons sans cesse le carburant spirituel pour progresser, parce que la Bible nous dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, oui ou non hein ?» Jusqu'à la fin. Et nous avons besoin de refaire le plein, pas lorsque la jauge indique la réserve, mais régulièrement. Tous les jours, j'ai besoin de prendre ma Bible, de m'en nourrir. Tous les jours, j'ai besoin du cœur à cœur avec mon Sauveur, lui dire que je l'aime, déposer mes fardeaux à ses pieds. Mais c'est tous les jours. Oui ou non ? Amen. Et il en est un, l'adversaire de nos âmes, qui va essayer d'envahir votre programme quotidien de flots d'occupations stériles, asphyxiantes, épuisantes, qui vont vous empêcher. Mais vous, eh bien, ensemble, vous et moi, soyons comme ces vierges sages. Et entretenons-nous. La Bible nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et dans le grec, c'est un présent de continuité. On pourrait dire, soyez toujours en train de vous remplir du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Rempli du Saint-Esprit, en permanence, Seigneur, même si je ne suis plus de très très peu au plein, même si il manque pas grand-chose, ce petit manque, comble-le tout de suite, comble-le, renouvelle-moi, Seigneur, dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est comme cela que tu vas avancer, c'est comme cela que l'Église va avancer, et c'est comme cela qu'elle va remplir sa mission d'éclairer sa société, une Église qui est rempli du Saint-Esprit. Dieu va montrer en vision une scène très forte à son prophète Ézéchiel, tout un tas de fémurs, de rotules, de tibias, de péronées, de cubitus, des ossements secs, des vertèbres en vrac. Et Dieu va lancer un défi à son prophète. Fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourraient revivre ? Devant l'ampleur du défi, Ézéchiel n'était pas normand, mais il n'a pas dit peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais il a dit, ben, tu le sais Seigneur, toi tu le sais. Hein. Il a fait une réponse de normand en tout cas. Tu le sais, c'était tellement inconcevable. Eh bien, Dieu a donné à Ézéchiel une succession d'ordres, que les os se rassemblent, que des nerfs croissent, que des muscles croissent, que la peau revête tous ces corps reconstitués, mais, dit ce passage, il n'y avait pas en eux d'esprit, ni de vie. Alors, dernier ordre que Dieu donne à son prophète, maintenant, invoque et appelle, réclame que l'Esprit vienne et entre dans ses corps inertes afin qu'ils vivent. Et sur l'ordre de Dieu, Ézéchiel a obéi, parce que sur le chemin de l'obéissance, il y a toujours la bénédiction et l'exaucement, et il a ordonné, Esprit, des quatre vents, souffle et visite, et le Saint-Esprit est entré dans chaque corps inanimé, ils sont venus à la vie, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse, debout, dans les dispositions de combattre, que Dieu soit béni. Je crois que le Saint-Esprit, dans ces temps particuliers que nous vivons, peut visiter encore. Et il peut entrer dans des cœurs, dans des foyers, dans des familles, il peut entrer dans des lieux où règnent les ténèbres. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre, que Dieu soit béni. Et je termine, le grand luminaire, le petit qui préside à la nuit, et puis des étoiles, Et ça, je ferai juste une projection pour parler de chaque chrétien disciple de Jésus. C'est comme une étoile. Amen. Une étoile. Dieu veut que tu sois une étoile. Un vendredi matin, une mamie en Saône-et-Loire prend son vélo et elle va à Chalon-sur-Saône. C'est le jour du marché. Mais elle fait ça depuis des années. Elle met sur le porte-bagages deux grosses sacoches pour ses emplettes. Elle arrive au marché. Et chaque vendredi, cette mamie avait son circuit habituel. Il avait son primeur, son boucher, son charcutier, son boulanger. Et elle faisait chaque vendredi le même circuit. Elle rentrait. Et ce vendredi-là, elle se trompe de circuit. Elle prend une travée qu'elle n'avait jamais empruntée. En prenant cette travée, elle rencontre deux chrétiens qui avaient une petite table avec des Bibles, des évangiles, un stand biblique, mais vraiment minimaliste, hein, tout petit. Et un des papis, la voyant, lui dit « Bonjour madame » et il lui offre la Bible, il lui parle de sa foi et il l'invite. Écoutez, le lundi après-midi à 15h, la mamie, elle est à la réunion. Elle est bouleversée par l'évangile. Elle prend conscience que Dieu est vivant, qu'il l'aime, que Christ a donné sa vie pour elle. Elle accepte Jésus, sa vie change. Et mes bien-aimés, elle devient une étoile. Elle a amené à Jésus 9 membres de sa famille. Quand elle est rentrée à la maison, l'étoile a brillé. Elle a raconté sa vie, son expérience, oh, son espérance, sa joie, son bonheur. Oh, combien l'amour de Jésus est grand. Elle a commencé à parler. Et devant le rayonnement, le jaillissement, la sincérité de cette étoile qui a brillé, 9 membres de sa famille ont rencontré Jésus à leur tour. Là où Dieu t'a placé, il veut faire de toi une étoile. Amen. Le chrétien, disciple de Jésus-Christ, est appelé à éclairer d'une manière individuelle son entourage, à éclairer. Alors, écoutez, je termine ce message. On a parlé de la lumière, d'accord ? On a parlé des luminaires, d'accord ? J'aimerais vous parler du lumignon. La lumière, les luminaires... Le lumignon, toi et moi, Dieu veut nous utiliser comme des lumignons. C'est quoi ces lumignons en fait? C'est très simple, c'est une mèche trempée dans de l'huile. L'huile, par capillarité, parcourt ses fibres et au sommet, on allume et... la mèche produit une flamme qui éclaire. On est dans la même pensée, la lumière de la propagation. La propagation. Mais la Bible me parle d'une déconvenue qui peut se produire, et c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12 qu'on trouve ce texte touchant et plein d'instructions. Matthieu 12 et le verset 20. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume. Nous trouvons ici le lumignon dont l'utilité est de produire une flamme éclairante. Mais là, il y a un problème. Au lieu de produire une flamme, la mèche produit de la fumée. Le lumignon qui fume. Autant la flamme est belle, autant elle est utile, elle crée une atmosphère chaleureuse, autant c'est agréable, autant la fumée est vraiment désagréable. Ça vous pique les yeux, ça vous fait pleurer, ça vous irrite les voies respiratoires, ça vous fait tousser, ça rend l'ambiance irrespirable. On ouvre les fenêtres pour aérer parce que c'est de la fumée. Il y a deux possibilités, frères et sœurs. Soit nous sommes des mèches qui produisent la flamme, soit nous sommes des mèches qui produisent la fumée. Autant la flamme est une bénédiction, autant la fumée produit du désagrément. Le problème, c'est où ? Le problème, c'est pas l'huile. L'huile est là, dans la petite potiche. Hein, voilà. Le problème, c'est que quand la combustion se fait, elle produit de la fumée au lieu de la flamme parce que la mèche n'est pas pure. Elle n'est pas de bonne qualité. Il y a dans les fibres de la mèche des éléments d'impureté, qui, en s'enflammant aussi, produisent de la fumée. Moi, je prie pour être un lumignon qui éclaire. Amen. Qui voudrait être un lumignon qui éclaire ? Deux personnes, c'est vous. Non. Je pense tout le monde, hein. Tout le monde. Tu veux être un lumignon qui produit la flamme ? Amen. La flamme. Il y a une petite mamie, au premier culte que j'ai assisté, elle a produit une flamme par un don spirituel d'une précision telle, elle reprenait des mots que je me disais à l'intérieur. Ça m'a éclairé, je me suis mis à pleurer, convaincu de l'amour de Dieu. Elle a été un lumignon éclairant et non pas fumant. Alors je voudrais, avant de conclure, mentionner trois éléments intrus en nous qui empêcheront la flamme et qui produiront de la fumée. Premièrement, le péché pratiqué sciemment. Le péché non réglé. Le péché non expié. Nous sommes appelés à avoir des cœurs purs dans un monde ô combien impur et corrompu, où la malhonnêteté, la tortuosité, les magouilles, le mensonge, la dissimulation, le vol et toutes sortes de comportements honteux sont banalisés et portés même parfois au pinacle, nous sommes appelés à demeurer purs. Et là aussi, c'est une discipline quotidienne que je vous recommande, c'est tous les jours de laisser Dieu ôter les impuretés qui auraient pu s'immiscer dans vos pensées, le péché. Le deuxième intrus fâcheux et nuisible, ce sont les soucis. Vous avez des soucis ? Non ? Comment vous faites ? Si. Les soucis en vous empêcheront la flamme et produiront de la fumée. Les soucis. Un état soucieux, obsédé par une situation, une problématique, comme hypnotisé par le problème, et qui influence négativement tout mon être intérieur. Bien, ce matin, tu peux déposer tous tes soucis, tous. Même ceux qui te semblent insolubles par leur complexité ou leur ancienneté, tu peux les déposer aux pieds du Seigneur et dire « Seigneur, je refuse de me laisser infecter une minute de plus par ce souci. Parce que ce que je veux, c'est produire la flamme et pas de la fumée, Seigneur. » Amen. Et le troisième élément d'intrusion en nous, qui est préjudiciable, ne partez pas, hein, ne partez pas, restez. Hein. C'est notre caractère. avec ces expressions que l'apôtre Paul appelle dans Galates 5 les œuvres de la chair. Ça produit de la fumée, ça. Notre caractère, notre colère, notre amertume, notre susceptibilité, notre raideur, notre promptitude à juger, cataloguer. Toutes ces expressions. Relisons dans Galates 5, les versets 17, 18, 16, 17, 18, 19, l'énumération des œuvres de la chair, les querelles, les disputes, les divisions, et toutes choses semblables. Donc la liste, elle n'est pas exhaustive, hein, voyez, mais tout ça, ça produit de la fumée. Moi, je prie pour que cet espace ne soit pas rempli de la fumée âcre et agressive de l'amertume, mais soit rempli de la lumière de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. L'esprit chagrin, défaitiste, pessimiste, acerbe, mécontent, nostalgique, rouspéteur. Il y a des rouspéteurs parmi nous? Non, il n'y a que des rouspéteuses. Ah non, non, pardon, excusez-moi. Non. Tout cela, c'est les œuvres de la chair. C'est le caractère naturel. Mais nous sommes appelés à manifester le caractère de Jésus. Amen. Les sentiments de Jésus. Sa douceur, sa patience, son humilité. Alléluia, gloire à Dieu. À manifester le fruit de l'esprit. Ah, la liste du fruit de l'esprit est bien plus glorieuse. Hein. C'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance. Alléluia, la fidélité, la douceur, la patience, la tempérance, maîtrise de soi. Oh, là c'est la flamme. Là, on produit la flamme. Alléluia, que le Seigneur fasse de nous ces lumignons éclairants et non pas fumants. Mais je crois que quand Dieu nous parle, il ne veut pas simplement que nous entendions ce qu'il a à nous dire, mais il veut que nous vivions la réalité de ce qu'il nous encourage à vivre. Moi, je crois que ce matin, eh bien, tous ceux qui ont besoin d'être vraiment débarrassés, nettoyés de ces intrus nuisibles peuvent en faire l'expérience. Est-ce que secrètement, dans ton cœur, devant le Seigneur, tu accepterais de venir à lui ce matin, dire « Seigneur, je veux laisser ta parole me laver ».